Alors, il y a des volontaires pour lire?
Kayalabui, Yalem Duba.
Partir de la culture et de la langue de l'enfant, c'est lui donner une certaine confiance en lui. Et ce sont ces différentes postures-là qui permettent à l'enfant de réussir dans l'école.
Épisode numéro 4. À l'école de la République.
Vous avez trouvé combien de compléments de nom?
Deux.
Moi, je suis colonisateur en tant qu'enseignant. Je viens transmettre les valeurs de la République, tout ça au détriment de tout ce qui existe. C'est à eux de prendre la relève.
Voyage en terre d'outre-mer. Ces oubliés de la République. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Kanak de Nouvelle-Calédonie, Amérindien de Guyane, Mahorais de Mayotte, insulaires de Polynésie, ces citoyens français ne sont pas toujours reconnus comme ils devraient l'être. Pourtant, ils témoignent d'une richesse unique et inventent un laboratoire d'idées pour demain. C'est la voix des peuples autochtones, la France ne l'a pas entendue pendant des siècles, alors, peut-être, est-il temps de l'écouter. Aujourd'hui, direction la Nouvelle-Calédonie et la Guyane. Loin, très loin de Paris, la France a saupoudré des écoles, symbole de l'intégration. En Guyane, les enfants amérindiens du Haut-Maroni doivent suivre à la lettre les programmes de l'éducation nationale. C'est une politique avouée d'assimilation dans ce département français. Aujourd'hui, les autorités locales réclament plus de moyens pour que ces enfants aient les mêmes chances de réussite scolaire que ceux de la métropole. En Nouvelle-Calédonie, l'école est une question politique. Depuis 2012 et le transfert de certaines compétences, c'est une affaire locale. Les programmes sont les mêmes, sauf l'histoire-géographie, et depuis 2016, la culture kanak est enseignée. Un premier pas vers une école décolonisée. Deux peuples, deux continents, et un même voyage à l'école de la République.
Alors ici, donc, on est au centre du village de Taluen. Donc l'école, on a 1, 2, 3, 4 bâtiments. C'est assez sympa, on est au plein milieu de la cour, un énorme manguier. Donc c'est vrai qu'à la saison des mangues, les enfants ils ont leur petit-déj servi au sol. Et ensuite, on a directement à 50 mètres en bas du talus, le fleuve Maroni.
Le matin, la plupart des élèves viennent comme là, en pirogue.
Là, la plupart des élèves viennent en pirogue. Mais même les enfants qui habitent à 1 km ou 2 km sur la même rive viennent en pirogue parce que c'est plus facile de prendre la pirogue et de faire 1 km ou 2 en pirogue que de marcher. Tout le monde est torse nu. Ben, les filles, quand elles commencent à avoir des seins qui poussent, et puis à la télé, ça se passe trop comme ça. Et puis en dehors du village, tout le monde se habille. Quand on est jeune, quand on est sans mari, pas cela, tout le monde est habillé. Il n'y a que les anciens, les très anciens, qu'on peut voir encore facilement torse nu, hommes, femmes, ça pose pas de problème. La représentation, je pense, du corps et de l'intimité est vraiment, vraiment différente.
Thomas, 27 ans, instituteur depuis 2 ans à Taluen.
Les garçons, montez les ordinateurs, montez un giromont, commencez à sortir les couteaux pour l'éplucher et mettez vos tours de la table, j'arrive.
On se dirige vers votre classe. Hein.
Très bien. Et alors, moi, j'ai donc à peu près une 50aine de mètres à traverser pour passer de mon logement à ma salle de classe.
Chez les Amérindiens, en Guyane.
Moi, je suis d'accord pour qu'on chante tous une chanson, d'accord?
Non.
Allez, s'il vous plaît. Si on chante pas de chanson, il n'y a plus d'ordinateur.
On ouvre le cours par une petite chanson. Et vous allez voir une chanson à laquelle on ne s'attend pas, ici à Taluen, en pays Wayana.
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, t'as ta gueule à la récré.
Moi, je suis colonisateur en tant qu'enseignant. Je viens transmettre l'école de la République, on transmet les valeurs de la République, tout ça au détriment de tout ce qui existe.
Moi, je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole.
Si tu ne crois pas, ta gueule à la récré.
Est-ce que déjà vous comprenez ce que ça raconte?
Oui.
Et est-ce que vous avez l'impression que vous êtes des enfants de 10 ans qui vivaient ça?
Non.
Et pourquoi?
Il dit des gros mots.
Et vous dites jamais de gros mots?
Non. Oui, on dit.
Ah, mais pas les mêmes, c'est ça? Le mercredi, je me balade.
Une paille dans ma
limonade. Vous avez jamais eu de paille, jamais eu de limonade, vous?
Non.
Bon, y a des choses qui se ressemblent, après il y a des choses un peu différentes.
À Talouen, dans ce village perdu en pleine forêt amazonienne, près de 120 enfants sont accueillis chaque jour dans cette école. L'architecture s'inspire de l'habitat traditionnel. Ici, il n'y a pas de frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et les classes sans portes, sans vitres et presque sans murs avalent goulûment le moindre souffle d'air frais. Les cours sont dispensés le matin, de 7h à 13h, par 5 jeunes instituteurs métropolitains. Souvent venus s'offrir un bol d'aventure, ils n'ont pas été formés à la culture amérindienne. Leur mission, proposer une éducation made in France. On les surnomme les hussards du Maroni. Pendant la récréation, les plus petits jouent à la ronde ou chantent des comptines, comme tous les enfants de la République.
Une souris verte qui court dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à son ministre. Je me fais me dire, crop-a-la-do-la,
en Wayana, tu connais une chanson? Non? Non? Toi?
Non.
Bonjour.
Bonjour.
Alors j'ai essayé de faire chanter les petits, et bien ils m'ont chanté une souris verte.
Ben pour la simple et bonne raison qu'ici il n'y a quasiment aucun prof qui est capable de parler Wayana.
Mais est-ce qu'ils connaissent des chants Wayana?
Non, je pense pas. En tout cas pas à l'école, on n'a pas appris de chants Wayana à l'école. Mmh. Après, vous connaissez des chants Wayana? Et on les chante tous, ces chants? Dansez la fête?
On danse avec des trucs.
C'est mon grand-père.
Avec des trucs, les trucs c'est les coiffes. Et ton grand-père il a encore des coiffes?
Oui.
Et alors vous aimez bien le jour de la fête, hein, quand on sort les coiffes, les parures?
Oui,
ouais.
Ces fêtes, on n'en voit plus. Moi, ça fait un an et demi que je suis là, je n'ai jamais vu de fête traditionnelle avec des gens qui viennent habiller, qui viennent danser, chanter des chants traditionnels. Je n'ai jamais vu ça en un an et demi. Donc il reste encore des chansons et petit à petit, si on ne les chante pas, bah, elles vont disparaître. Tu nous chantes, Koulou? Commence, on te regarde pas. Hein.
Hi, Philippe. Au Cameroun, intellectuel. My clip que j'ai connu juste.
Et alors, on chante cette chanson quand?
Quand c'est la fête de Wayana.
Comment voulez-vous que ça soit autrement? Les moments où ils apprenaient ça, ils sont à l'école toute la journée. Le soir, on faisait des veillées ou dans le hamac, on écoute le grand-père, etc. Maintenant, on met la télé.
Didier Morel, ancien instituteur.
C'est la quatrième génération là, qui est scolarisée. Ça veut dire que les gens actuellement à l'école, leur arrière-grand-père était déjà à l'école. Donc si vous voulez, ce n'est pas une génération perdue. On a assisté progressivement à une déperdition qui dure déjà depuis longtemps. Hein. Non, l'école est totalement inadaptée. Il ne reste que deux territoires en Amérique. On n'a pas réussi à organiser un enseignement adapté, qu'on appelle ça un enseignement indigène ou bilingue, autochtone. C'est la Guyane française et le Suriname. La République française reste de ce point de vue extrêmement conservatrice et considère que les parents n'ont pas grand-chose à dire, et ainsi que les organisations autochtones. Toutes les revendications depuis des décennies se heurtent à un mur. Moi, c'est ce que j'appelle le néocolonialisme à la française, moderne, hein, sans doute moins brutal, soit mieux violent qu'avant, où les violences sont surtout symboliques, mais tout aussi efficaces. Hein. On détruit les gens petit à petit et il y a une forme d'extrême indifférence. Alors, de temps en temps, il y a des mots, quoi, mais c'est jamais suivi d'actes. La Guyane, c'est un territoire d'outre-mer, donc c'est un miroir déformant de ce qui se passe déjà en Hexagone, où depuis Bourdieu, on sait que l'école, c'est le lieu de toutes les reproductions sociales. Hein. Donc forcément, ici, c'est les mêmes effets, mais encore plus voyants.
Qu'est-ce que tu es en train de faire, là?
Je vais chercher les verbes, et on va chercher les verbes, des adjectifs, des noms.
C'est une évaluation sur la nature des mots. C'est un livre qu'ils lisent, c'est un conte de Tahiti. Et ils doivent chercher les verbes, les noms, les compléments de noms.
Et alors pourquoi est-ce que c'est pas un livre de contes Wayana?
Bah déjà on n'en a pas beaucoup, on n'en a pas du tout. Et puis pour les CM2, le problème c'est qu'on a souvent des contes qui vont être pour les tout petits. Là c'est un texte qui est fait pour les CE1, CE2. Moi je travaille avec un texte CE1, CE2 pour les CM2. C'est un conte de Tahiti parce que déjà ça est proche, on va dire, au niveau de la vie d'ici. Il y a des pirogues, des fleuves. Donc on se retrouve quand même avec un vocabulaire qu'on peut retravailler plus facilement avec les enfants là. Alors c'est vrai qu'on va me dire, ça ne fait pas enrichir le vocabulaire, mais au moins les enfants comprennent ce qu'ils lisent et c'est le plus important. C'est vrai que moi je trouve, en étant là depuis un an et demi, il y a des fois on se pose vraiment la question pourquoi on leur apprend toutes ces choses qui ne leur serviront vraiment pas ici, sans parler de l'histoire des Gaulois et Ça, c'est sûr que c'est des absurdités, mais même quand on leur apprend la géographie, on va plutôt leur apprendre à comment se déplacer, comment consommer, tout ça en France métropolitaine. Ça n'a pas de sens. On va leur parler d'un train sur des rails et on n'a jamais vu de train, on n'a jamais vu de rail. On va leur parler de la maison, de la voiture rouge qui fait pimpon. On ne sait pas ce que c'est un pompier ici. Ici, ça n'a strictement aucune raison d'être. Il n'y a aucun sens dans l'éducation qu'on fait ici. Koulou, t'as fini ? Vous avez trouvé combien de compléments de noms ?
Deux.
Il y en a combien ?
Je crois qu'il y en a deux.
Donc on est vraiment encore dans une politique d'assimilation.
Totalement dans une politique d'assimilation. Si ça fait 40 ans qu'une école est ici et en 40 ans on s'est pas posé la question d'adapter le programme, c'est qu'il n'y a aucune volonté derrière politique ou éducative. On essaie petit à petit d'adapter. Par exemple, on travaille avec les profs du collège d'histoire pour qu'ils nous donnent des cours de ce qui s'est passé en Guyane, en Amérique du Sud. En géographie, moi j'essaie plutôt de travailler sur l'Amérique du Sud, les Caraïbes, plutôt que travailler avec l'Union Européenne. Alors oui, la Guyane est dans l'Union Européenne. Les Amérindiens sont le dernier peuple autochtone d'Europe. Dans ces phrases-là, on a des absurdités monstrueuses. Mais on nous fait travailler, voilà, quand on nous donne des livres scolaires, on a les programmes nationaux. Et légalement, on n'a pas le droit de s'en éloigner. C'est quoi déjà les compléments du nom ?
L'Office de Dieu, de la Terre.
Et de la terre, déesse de la terre, d'accord.
De la terre,
Moi, je dirais pas qu'ils sont abandonnés, au contraire, je dirais qu'ils sont beaucoup trop protégés et qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont là pour essayer de les tenir, les cadrer. Si c'était complètement abandonné, il n'y aurait pas d'école, il n'y aurait pas de système de santé et ils auraient fait leur propre école, ils auraient été en autogestion et ils se seraient débrouillés tout seuls. Là, aujourd'hui, on fait tout pour qu'il n'y ait aucune possibilité de débrouille. Là, c'est l'État français qui va choisir à leur place et qui va leur donner la direction.
Est-ce que l'État français n'est pas un peu une sorte de colonisateur déguisé en 2017
hein ? Moi, à mon avis, c'est même pas que déguisé. Moi, je suis colonisateur en tant qu'enseignant. Je viens transmettre l'école de la République, on transmet les valeurs de la République, tout ça au détriment de tout ce qui existe. Donc si ça, c'est pas de la colonisation, Donc en arrivant ici, on est tous, pour la plupart, anticolonialistes. En nous, notre idée, c'est de motiver les enfants, les gens autour, pour leur dire que c'est à eux de prendre la relève.
Ça commence à se faire un peu plus haut dans le village d'Antecumpata. Cette année, il n'y a que des Amérindiens. C'est le premier bachelier Wayana et il dirige l'école et il est instituteur.
Ouais, c'est vrai. Ils sont 3 sur 4 à être Wayana du village. C'est super. Moi, la seule chose, si c'est eux qui sont là-bas, c'est bien parce qu'en fait, personne ne veut y aller. Donc on va dire que les personnes qui passent leur diplôme pour être prof veulent pas monter jusqu'à Antecumpata. Donc on se retrouve avec des contractuels comme moi, et moi je le dis sans problème, je sais que je ne suis pas compétent pour plein de choses, parce que je n'ai pas fait d'études d'enseignement, il y a plein de choses que je ne connais pas. Oui, c'est très bien qu'aujourd'hui ce soit 3 Wayana qui détiennent l'école, mais en défaut, parce que personne ne voulait venir. Ça fait beau une année, ça a une étiquette à faire, un bel article pour France Guyane, mais non, il faudrait que ça soit des process sur plusieurs années où il n'y a pas d'université sur le fleuve. Donc il faudrait.
Il n'y a pas de collège.
Il n'y a pas de collège sur le fleuve. Et voilà, il n'y a pas grand chose au niveau éducatif. Donc si les personnes sont intéressées pour devenir un prof, eh ben, qu'on leur donne la possibilité de le faire. Mais pour l'instant, on n'est encore pas là. Oui. C'est qu'a fini son exercice. Oui. Ça vous dit qu'on passe aux ateliers de maths ?
Oui.
Maths ou français ?
Voyage en terre d'outre-mer, à l'école de la République, sur France Inter.
En 63 ans, 3 instituteurs Wayana ont été formés. Mais combien de temps faudra-t-il encore pour que cette école s'adapte aux réalités amérindiennes ? Aujourd'hui, faute de collège, les enfants doivent partir dès l'âge de 10 ans, à 40 km du village, à Maripasoula. Ils seront alors livrés à eux-mêmes, hébergés dans des foyers ou des familles d'accueil et totalement déracinés. Cela fait près de 10 ans que les autorités locales demandent la création d'un collège de proximité.
Chez les Amérindiens, en Guyane.
D'une rive à l'autre, sur le Yapok, Camopi est à 6 heures de pirogue de la première ville Saint-Georges. Isolés, au cœur de la forêt amazonienne, les parents d'élèves et les enseignants ont le sentiment d'être abandonnés. Alors, à la rentrée 2016, excédés, ils ont cadenassé le collège et l'école de la commune. La moitié des enseignants manquaient à l'appel, les sanitaires étaient insalubres, la cantine et l'internat toujours inexistants, et les chauves-souris s'étaient installées dans la toiture de l'école primaire. 11 mois après, c'est toujours la débrouille. Des promesses ont été faites, mais ils n'ont toujours rien vu venir de concret.
Romuald est professeur. Il est arrivé il y a 8 ans avec sa femme, après un long voyage depuis la France. Dans ses bagages, des rêves d'exotisme et d'apprentissage partagé.
Bonjour les enfants.
Alors on est ici devant le collège, accueilli par le drapeau français et le drapeau européen. Il y a même ici, à Camopi, le plan Vigie Pirate.
Oui, comme partout sur le sol de la République, c'est assez révélateur. Complètement après, bon, on est des représentants de l'éducation nationale, donc des représentants de l'État. Et c'est le rôle de l'école, hein, de former des citoyens pour le futur. Et puis essayer de les accompagner au mieux. Après, ils sont avant tout amérindiens. Ils sont plus à coloniser. Ce sont des Français comme vous et moi, ils ont une carte d'identité. Donc maintenant, il faut vraiment se réunir avec eux et on ne peut pas tirer un trait sur leur étiquette pour en faire du jour au lendemain des citoyens français à part entière. Surtout que, voilà, enfin bon, est-ce qu'ici on est vraiment en France ?
On va voir pour faire un petit peu de construction géométrique, d'accord ? Donc la seule chose que je vais vous imposer, moi, c'est les dimensions du cercle. C'est bon ?
Les sixièmes, cinquièmes, donc les cinquièmes, ça va un petit peu mieux. Les sixièmes, on a quand même pas mal de difficultés de compréhension de la langue. Cette année, du coup, par rapport au manque d'enseignants, on a beaucoup de problèmes pour mettre en place des heures de soutien scolaire. Si on ne pratique pas bien la langue française, pour comprendre des problèmes mathématiques, ça va être assez difficile. Pour comprendre l'histoire-géographie, ça va être difficile. Pour comprendre les cours technologie, ça va être difficile. Donc on en revient à un gros travail sur la langue française au départ, pour pouvoir ensuite travailler sur les autres matières.
Kevin, tu peux venir me tracer le diamètre du cercle, s'il te plaît, au tableau ?
Tant qu'on prendra des lunettes hexagonales pour regarder ces élèves-là, on ne sortira jamais de l'échec scolaire. Il y aura déjà à se poser la question de la pertinence des ce qu'on appelle les évaluations qui sont faites en français par-dessus le marché. La deuxième question, c'est lorsqu'on construit des cursus pour des enfants dont on sait, lorsqu'ils partent de leur village, qu'ils seront à peu près à 80 ou 90% dans des filières qu'ils n'ont pas désirées, qui ne correspondent d'ailleurs même pas souvent aux besoins socio-économiques du pays. On ne peut pas faire autrement que produire le chèque, on le sait déjà dès le départ. Donc on fait semblant, on sait que ça ne marchera pas, donc on continue.
Une professeure me disait, sous couvert d'anonymat, qu'on leur donne tous le brevet, et ils n'ont pas du tout le niveau du brevet, mais on leur donne.
Ils croient qu'ils ne sont pas en échec. Par contre, après, quand ils se retrouvent dans des vraies situations où il faut passer des diplômes, et quand ils sont en concurrence avec d'autres composantes de la population guyanaise, ben soit ils arrêtent les études, ou soit ils continuent, et c'est l'échec, très souvent.
Alors, je vous regarde faire votre cercle, et après on regardera si c'est bon. Attention, j'ai bien dit le diamètre. 20 cm, c'est pas le rayon.
Moins.
C'est le moins.
Et puis quel exemple on montre aux enfants ? Les personnes qui ont des contraintes ici sont les enfants. Alors que normalement les enfants sont les personnes qui sont censées vivre sans contraintes. Quoi. On est un enfant. Dans l'éducation amérindienne, ce sont des enfants. Ils jouent du matin au soir, ils se baignent, ils grimpent aux arbres. Et dans la société française, eh ben, ils doivent se lever tous les matins, être présents au collège à 7h25, être assidus en cours, être propres sur eux, avoir leur matériel. Les parents, eux, on leur demande rien et on leur donne des aides familiales. Donc bon, est-ce que c'est comme ça que ça doit fonctionner ? Enfin voilà, le malaise des jeunes, il est peut-être là aussi, quoi. De voir des parents qui vivent sans contraintes et eux qui sont enfants et à qui on en fixe. Il faut pas, surtout pas fonctionner comme ça. Il y a la réalité qui est sur le papier et il y a la réalité qui en découle sur le terrain. Et les limites de notre système sont ici, là on les voit vraiment. On peut pas juste acheter le silence des gens ou la tranquillité des gens avec une aide sociale qui tombe tous les mois. Il y a des choses à faire avec eux et pour eux réellement.
Voilà, et en quittant cette classe de 6e, 5e, on se retrouve ici, non loin d'une classe, où on raconte des histoires.
Sa menace à exécution, avertit la lune de ce qui se prépare.
Alors Anne, en fait là en ce moment on travaille avec les enfants sur une légende, aujourd'hui une légende africaine, pour leur faire comprendre qu'on transmet les choses de manière orale, pas seulement à Kakamopi, et que la transmission orale c'est à la fois une chance, mais aussi pour eux, aujourd'hui, un devoir de pouvoir continuer à transmettre leur histoire à eux. Alors, on a pas mal discuté de ça avant que tu arrives.
Lydia, 25 ans, en poste depuis un an.
Est-ce que vous connaissez une histoire qui raconte quelque chose avec la lune qui viendrait cacher le soleil?
Oui.
Tu en connais, Brendé, tu la connais?
Oh, mais c'est pas parler en français.
Ah, mais sinon tu parles en
teco
et puis
Anne,
elle va
traduire.
Qu'est-ce que tu m'as raconté? Les guerriers teco. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard dans la vie, toi?
Prier.
Rien? Tu veux toucher la CAF?
Le métier.
Un métier, oui. Vous avez travaillé sur les métiers avec Romuald?
Oui,
j'ai travaillé le métier du charpentier.
Oui. Ah. Et ça, c'est rare qu'on entende des orientations comme celle d'Ulysse. Et du coup, ça m'a fait moi très plaisir qu'il ait envie de travailler le bois. Et pourquoi pas venir construire des maisons à Camopi, hein? Puisqu'on manque de personnel qui sait construire des maisons, hein? Après toi, Brendé, tu veux faire quoi?
Restaurant
de cuisine amérindienne. Eh oui, mais on n'a pas ça. Nelly, elle nous fait pas des plats amérindiens. On n'a pas de cassave à manger. Eh bien, on a raison d'imaginer. La cassave avec du poisson, un peu de takaka le matin pour le déjeuner. Hein, tout ce qu'il faut. Anderson, toi, tu aimerais bien faire quoi comme travail plus tard?
Empaillage.
Ah, alors l'empaillage comment? Légal ou illégal?
Illégal.
Pourquoi illégal, Anderson? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans?
L'or.
L'or, d'accord. Gagner de l'argent?
Faire des chaînes.
Ah, pour faire des chaînes en or, des pendentifs. Ok. Tu sais, il y a d'autres façons de pouvoir avoir des chaînes en or sans abîmer ta forêt. En plus, sans faire des choses qui sont dangereuses.
Les poissons.
Pour les poissons, très bien, Brendé. Hein, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les poissons quand on fait leur paillage? Il y a du...
Mercure.
Mercure. Et mercure, quand on mange les poissons avec du mercure...
Tu vas être malade.
Oui, on va être malade. D'accord?
Tu vas être handicapé aussi.
Alors toi, Papayan, tu aimerais bien faire quoi?
Police.
Dans la police.
Pour braquer les gens qui font le paillage.
Ah, voilà, pour surveiller, pour arrêter.
Hein?
Très bien, arrêter leur paillage. Alors bon, t'as vu la troupe de grands bonhommes que t'as déjà contre toi, Anderson? T'es pas un peu dans l'embarras?
Toi, de ma carte. Oh, diarrhée.
On a un voyage qui se prépare. Les enfants vont aller faire des stages dans les lycées professionnels du littoral pour leur donner un petit peu d'ouverture, un peu plus d'ouverture sur les différents champs professionnels parce qu'à Camopi, on n'a pas grand-chose comme possibilité. Qui a très envie d'aller sur le littoral?
Moi.
Qui n'est jamais allé? Jamais. Ulysse, t'as jamais été à Cayenne? Jamais vu la mer?
Jamais.
Est-ce que vous pensez que, par exemple, vous êtes déjà préparé? Que le matin, quand vous serez peut-être dans la famille d'accueil, il n'y aura pas de takaka le matin?
Oui.
Ça va faire bizarre au début les changements hein, d'alimentation, etc.
C'est bien parce que vous les préparez quand même à l'avenir un petit peu.
Je crois qu'il faut parce que c'est ça, le fait de ne pas être préparé qui fait que les enfants sont complètement déstabilisés quand ils arrivent. Mais là, ils font les fiers devant vous et... ils sont mignons comme tout, mais en vrai, ils ont quand même très peur de se retrouver tout seul, à gérer son emploi du temps aussi, à gérer les horaires, à plus pouvoir se déplacer comme on a envie. Faut être préparé à tout ça.
À les entendre, là, ils sont plein d'espoir et c'est plutôt après sur le littoral où ça se passe pas toujours très bien.
C'est l'accompagnement, même nous aussi on est très inquiets, hein, l'accompagnement. Par exemple, on a beaucoup pensé à des maisons où on ferait venir des mamans ou des dames qui pourraient gérer, mais on a déjà eu des propositions, on a déjà fait des espèces de projections, etc. Mais bon, on n'a jamais de suite, jamais de retour.
Parce que malheureusement, trop souvent, ils reviennent et ils sont en échec.
Malheureusement, oui. En échec scolaire, puis en échec social, en échec... Parce que revenir sans rien au village, c'est un peu la honte. C'est vécu comme ça, hein, parce que les jeunes qui reviennent avec leur CAP, avec le bac, ils sont ovationnés, c'est la fête pour eux pendant plusieurs jours, etc.
Et en même temps, hier, le pédopsychiatre me racontait une histoire avec les larmes aux yeux, me racontant l'histoire d'une jeune fille qui était revenue, la première bachelière de Trois-Sceaux, et qui est revenue. Ils avaient préparé une fête au village pour elle, et puis elle a dansé comme on danse sur le littoral, et sa maman l'a giflée. Et elle est allée chercher une carabine, et elle s'est suicidée. Parce que c'est aussi la confrontation de deux mondes et de deux cultures. Et c'est difficile finalement d'arriver à trouver un équilibre et une combinaison.
Mais c'est pour ça qu'on essaye au maximum de les préparer en leur disant ça ne sera pas pareil, mais on peut trouver des solutions pour mixer tout ça. Et quand même à Camopi, les parents sont quand même plus préparés à ce que leurs enfants reviennent transformés. Je croise beaucoup de parents qui me disent « Est-ce que tu peux donner plus de cours? Est-ce que tu peux me donner des cahiers ?» Je les croise sous les carbés en train de faire des exercices de grammaire, le papa, la maman. C'est touchant. C'est aussi la traduction de pas mal de volonté, d'envie de s'en sortir aussi.
Et d'espoir.
Et d'espoir, bien sûr.
On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion avec les communautés. C'est-à-dire lorsque vous allez discuter d'implanter une école, qu'est-ce qu'on fait comme école, avec combien d'heures par semaine, quel rapport on doit entretenir avec l'assiduité ou pas, quels sont les contenus qu'on doit dispenser à l'école. Là, il faudrait vraiment des décisions fortes et changer des choses. Ou alors, on se réfugie dans la loi, dans la Constitution, c'est pas possible, c'est le noyau dur de la République. Pour ces raisons, vous avez quelques milliers de personnes qui sont condamnées à disparaître en tant que culture, en tant que langue, en tant que système de pensée. Ceci dit, effectivement, eux-mêmes font partie d'un système administratif qui ne reconnaît pas les gens en tant que communauté. Ils n'ont pas de pouvoir d'influer sur leur vie, quoi, et choisir son futur. Alors l'article qui a été voté lors de la loi de refondation de l'école en 2013... pour la première fois, inscrit dans le marbre de la loi le mot amérindien. Il précise que dans les académies d'outre-mer, comme la nôtre, il est autorisé de recourir aux langues amérindiennes, c'est marqué comme ça, quelques heures par semaine, jusqu'à la parité horaire globale. Le problème, c'est que ces avancées qui existent sur le papier, qui sont inscrites dans le journal officiel ou dans le marbre de la loi de refondation de l'école, par exemple dans le code de l'éducation, ne sont pas mis en œuvre. Que pour eux, c'est dangereux, c'est politique, ils vous disent. Donc, les gens pensent comme ça dans le ministère.
Est-ce que vous avez de l'espoir sur l'avenir de la communauté ?
Dans un futur un peu plus lointain, je pense qu'ils sont en capacité de relever les bras. Il y a une grosse fracture en ce moment au village entre les deux cultures. Les jeunes ont vraiment énormément de mal à se positionner entre les deux cultures. Ils sont plus tout à fait amérindiens, ils sont pas occidentaux, parce qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas encore intégrées. Et puis qu'on ne cherche pas à intégrer ici. On a l'impression qu'on fait le travail à moitié. Comme vous disiez tout à l'heure, les oubliés de la République, là on n'est pas... c'est pas la France. Il y a une poste. Il y a une gendarmerie, il y a l'éducation nationale qui est présente. Moi, mon point de vue perso, c'est qu'on n'a rien à faire ici.
À 15 000 km de là, en Nouvelle-Calédonie, depuis 2016, l'école dispense des cours de culture et de langue kanak. C'est un premier pas vers une école postcoloniale.
Bien rangé, j'aime que ma famille m'obéisse, j'aime la chasse et mes copains bourrés, j'aime surtout la représentation du Christ, j'aime que les femmes n'avortent pas, j'aime bien la télévision, j'aime bien l'idée du partage, j'aime cependant ne pas donner mon pognon. J'aime mon pays, comment peux-tu en douter, j'aime aussi le ciel.
Voyage en terre d'outre-mer sur France Inter.
Nous sommes dans une colonie qui ne dit pas son nom parce que certains ont peur que les Noirs s'émancipent, prennent la mainmise du pays. Certains essayent de penser autrement, et puis il y a eu des expériences qui ont été faites. Mais c'est vrai que la majeure partie sont un peu aussi pris par ce système. Ils reproduisent sans savoir des modes d'être, des modes de faire, des modes de savoir tels qu'ils ont été transmis par la machine éducative obligatoire. La colonisation a laissé un traumatisme durable.
À quelques mois du référendum sur l'autodétermination, l'école s'est mise à l'heure du destin commun, en théorie multiculturelle et plus égalitaire. Les programmes ont été adaptés en histoire-géographie, éducation civique, la culture kanak enseignée et la langue autrefois interdite même dans les cours de récréation est devenue une option à raison de 5 heures par semaine. Des mesures pour que l'école ne soit plus considérée comme une école à plusieurs vitesses. Seulement 34% des kanaks étaient bacheliers en 2016, mais plutôt comme une école de la réussite. Face à ce discours officiel, certains enseignants n'ont pas attendu et proposent depuis plusieurs années de réconcilier l'école avec la société kanak.
Voilà, donc ça va être l'heure de l'apprentissage en langue et culture. Et là, c'est le champ pour attendre l'arrivée de l'enseignant en langue.
À 160 km à vol d'oiseau de Nouméa, la capitale, les îles de la Loyauté évoquent la langueur tropicale. En partie préservée par les abus de la colonisation, les traditions y sont encore très vivantes. C'est ici que Richard Waminia, ethno-mathématicien, a imaginé sa pédagogie. Les enfants apprennent à partir de leur vécu, de leur histoire et de leur environnement. Aujourd'hui, tous les enfants de l'IFU étudient selon sa méthode. Le premier à y croire a été Abel Maloko, directeur et enseignant en langue kanak.
Chez les Kanaks de Nouvelle-Calédonie.
Si le nom de l'école, c'est l'école de Namelangat, en Djérou, lieu de vie.
Ce matin, avec cette classe de cycle 3, CM1, CM2, qu'est-ce que vous allez proposer ?
On commence par de la géographie. Par rapport à un conte qu'on a travaillé, le passage des ignames avec toutes les tribus. Même en même temps, quand ils font des mathématiques, je leur propose aussi de commencer par tout ce qui est conceptualisation au niveau culturel pour aller vers la conceptualisation en mathématiques à l'école.
Ça veut dire que dans les contes, on fait des maths, mais dans les maths, on fait des contes. Par exemple, lorsqu'on veut travailler sur les mathématiques, on va utiliser la dimension sociale et culturelle. C'est-à-dire quels sont les éléments naturels que les enfants utilisent pour découvrir des compétences en mathématiques. Et quand on parle de symétrie, on sait que dans les activités culturelles, on travaille les feuilles de pandanus ou les feuilles de cocotier. Et dans ces feuilles de cocotier, il y a cette valeur symétrique et qui est réexploitée au niveau de l'école. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire c'est cette osmose qui vient entre les différentes dimensions. Que ce soit la discipline maths ou français, mais tout se croise à l'intérieur d'un seul temps de travail, qui donne tout le sens à la pédagogie.
Et cette démarche, je trouve que c'est très intéressant dans la mesure où c'est adapté à notre culture, adapté à aux stratégies des enfants d'ici.
Bonjour.
Bonjour.
La date en donnant les nombres.
Fatou. Sha'at. Yenemen.
Alors là, il parle la langue de la tribu qui est donc
la langue de l'île.
Ouais.
Elle rappelle des nombres à partir de la date, le jour et l'année. Là, c'est moi qui ai mis la numération.
Machate. Nemen.
Le 6, c'est Changmen. Le Changmen, ça parle de la paroi d'une grotte. Donc, hier, les anciens, hier, la première écriture, c'était sur la paroi des grottes. Ils écrivaient leur histoire sur la paroi des grottes. Et chaque nombre est défini par son nom d'un point de vue philosophique et culturel. Donc là, Kenaïti, ça veut dire on invite un autre.
Et c'est le numéro 3.
Voilà. Et Kéti, ça veut dire, et si on ajoute un des trois précédents ?
Numéro 4.
Voilà. Et le tipi, ça veut dire une collection de mains.
Pour éviter la confusion.
Éviter la confusion. On a cette base-là de 6 à 10.
Mais ça, c'était complètement oublié.
Exactement. Donc j'ai retrouvé tous ces termes-là. Et le seul travail que j'allais faire, il fallait redéfinir chaque nombre. C'est-à-dire que ça vient du zéro, c'est le monde invisible. Hein, c'est l'existant, quoi.
Il est là, mon ami, il m'a appétit, je vous.
20 plus 10.
Caloy, mais vous l'allez, que ça a été.
32, ça se dit 20 et 10.
Et le 20, en langue, ça veut dire quoi?
Les 10 doigts de la main, les 10 doigts de la main. Dans la dimension philosophique, l'homme, c'est la base. Et la dimension mathématique, mais l'homme est constitué de 10 doigts de la main et 10 doigts de pied.
Et en plus, ils font la numération sur leurs doigts.
5, c'est une main. 10, c'est deux mains. 3 mains. Un homme. Prenez mieux le sens des membres à travers la langue, toi. Par exemple, 1 et 2 et 3, c'est abstrait, c'est très abstrait.
Donc, 20, c'est un homme.
Voilà.
Les 10 doigts de la main et les 10 doigts des pieds. Et alors là, maintenant
Quel est le nombre des tribus dans le Dissac? Rappel de la structure de l'organisation géographique. Rappel aussi d'une quantité de tribus à l'intérieur du Dissac.
Alors on est à la fois sur la géographie, les mathématiques.
Et sur la culture, l'histoire. C'est l'approche, c'est ça l'approche multidimensionnelle. Il faut croiser toutes les dimensions pour donner du sens. Il y a beaucoup d'exemples. On parle au niveau mathématique, mais au niveau géographie aussi, au niveau histoire aussi. Il faut comprendre que l'enfant, il vient d'un espace où c'est déjà organisé. Par exemple, quand vous dites le nom d'un clan, eh bien, ça parle carrément du statut de l'individu, au statut du clan. Ça fonctionne dans la société. Pour comprendre que c'est qu'une monarchie, eh bien, l'enfant comprend par rapport à ce qu'il existe chez lui. Partir de la culture et de la langue de l'enfant, c'est lui donner une certaine confiance en lui. Et ce sont ces différentes postures-là qui permettent à l'enfant de réussir dans l'école. Et la culture de la langue kanak fait partie des outils qui doivent être utilisés dans les écoles.
Je m'appelle Troca Marie-Louise.
Je m'appelle Amoru Nashipan.
Je m'appelle Sio Julien. Je viens de la tribu de Dosi et je suis en CM2.
Tu aimes bien ces cours?
Oui. On a appris à côté.
On a aussi appris l'alphabet, Olifou.
Qui dit quoi? Voilà, la timidité légendaire des enfants de l'Ifou.
Ils ont été éduqués comme ça au niveau de la maison? Ou la soumission, le respect, voilà.
À la maison, quand on parle aux enfants, les enfants baissent la tête. Et ici, à l'école, on lui dit, quand je te parle, tu me regardes.
Certains arrivent, dont Richard Wamina, essayent de penser autrement. Et puis il y a eu des expériences qui ont été faites par les écoles expérimentales, comme les écoles populaires kanak. Mais c'est vrai que la majeure partie sont un peu aussi pris par ce système. Ils reproduisent sans savoir des modes de faire, des modes de savoir tels qu'ils ont été transmis par la machine éducative obligatoire. Mokadem Hamid, professeur formateur dans un institut des maîtres. La culture kanak à l'école obligatoire cette année, en l'école primaire, c'est 45 minutes par semaine. Parce que les modes de transmission sont confisqués par l'appareil institutionnel qui est le système éducatif. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la manière dont on enseigne une règle de calcul, une règle de grammaire. Et ça, c'est pas du tout pensé. Elle est complètement stéréotypée. La colonisation a laissé un traumatisme durable.
Alors, vous êtes l'enseignant CM1, CM2.
Oui.
Et donc, vous laissez, une fois par semaine, votre classe à l'intervenant de langue et de culture kanak.
Il fait de tout, c'est pluridimensionnel. Comme on dit que l'enfant, il apprend le monde à travers son corps, c'est son corps qui vit le monde. On ne doit pas enfermer l'enfant dans les quatre murs. Il faut laisser aussi la langue entrer à l'intérieur de ces quatre murs pour que l'enfant ne se sente pas étranger dans cet environnement. Donc faire entrer sa culture entre les quatre murs lui permet d'apprendre mieux le monde. On voit des grands changements au niveau des résultats scolaires. Ce qui manquait à l'école auparavant, c'est ce lien-là. C'était le lien entre l'environnement de l'enfant et l'école. On a pu avoir la place maintenant des langues au niveau de l'école, mais je pense qu'il faudrait plus une généralisation. Il faudrait une éducation beaucoup plus kanak. Apprendre en langue, non pas apprendre la langue. Qu'un enfant djehu, il apprenne les mathématiques ou la langue française en djehu. Moi, je pense que ça, là, on serait plus efficace.
Finalement, on se rend compte que c'est assez politique, tout ça.
L'école, c'est un outil politique. On essaye encore de décoloniser l'école. L'école a colonisé tout l'environnement calédonien et kanak. Mais je pense que l'école doit s'inscrire dans l'environnement et non pas être un outil colonial.
Nous sommes dans une colonie qui ne dit pas son nom, mais il y a encore une inégalité forte, puissante, moi je dirais entre deux systèmes de pensée, qui est encore criante. Donc c'est pour ça que c'est perçu comme étant un sujet interdit, parce que certains ont peur que les Noirs s'émancipent, prennent la mainmise du pays. Il faudrait comme solution qu'il y ait véritablement un échange interculturel entre les systèmes. Dans le système kanak, il y a des choses, des valeurs, des cultures qui sont universalisables. Dans le système européen aussi. Il faudrait que ça puisse être monnayé et changé dans le système éducatif. Alors c'est en apparence fait avec la charte du système éducatif calédonien. Pour moi, c'est de l'esbroufe. Il faudrait qu'il y ait véritablement des manières. Par exemple, tout à l'heure, je disais la manière de faire la classe. Dans le système kanak, quand un ancien parle aux autres, il prend son temps, il dit des choses, il faut que l'autre ait le temps de comprendre et de faire. Il faudrait que le travail soit accompli avant d'évaluer. Et non pas évaluer avant que le travail soit accompli comme ça se fait actuellement. Je pense que c'est jouable, ça. Mais il y en a qui empêchent que ça se fasse.
Tout à fait. La philosophie, c'est la philosophie de l'arbre. Un arbre qui est bien enraciné, il peut pousser plus haut, mais aucun vent ne pourra le faire tomber. Donc les enfants ici, je pense qu'ils ont vraiment besoin qu'on les enracine plus dans leur milieu. Ce sont des enfants qui sont déjà en danger, partiellement déculturés. Et ces enfants-là, ils ont vraiment besoin qu'on les enracine encore plus dans leur pays pour qu'ils puissent s'épanouir et puis s'élever. Et je suis sûr qu'un jour, on apprendra tout en langue.
La langue est l'avenir de l'homme.
Et l'avenir de l'homme, tout à fait.
Voyage en terre d'outre-mer, sur France Inter, à l'école de la République.
À 380 km au nord de Nouméa, sur la côte est, la tribu de Yombé s'étale le long du rivage, au milieu des collines boisées. À l'entrée, une école, blanche, au volet bleu, d'où s'échappe le murmure des enfants. Luc Camouy est poète. Il est aussi instituteur dans cette école de Yabé, que l'on pourrait traduire par « relever les défis ». C'est aussi son rôle dans la tribu. Alors, pour lutter contre l'échec scolaire kanak, il propose un apprentissage à partir du savoir et de la culture des enfants, une pédagogie participative et ludique.
Les Africains ou les États-Unis ? Les États-Unis ?
Ah ben, on partirait aux USA alors.
Ashley.
Tu veux aller en Afrique ou en Amérique ? Ah, mais ils veulent tous être des Américains, des Américaines. Donc, ok, hein, même consigne. C'est pas du grand coloriage pour tout, mais vous respectez bien les formes là du masque, hein, ok ?
C'est un jeu de masque. Il se met dans la peau de quelqu'un d'autre. Là, on est sur le monde africain. Ensuite, on travaillera sur les masques kanak. Voilà, nous sommes en contact direct avec des enfants kanak. C'est vraiment excentré par rapport à la capitale qui est Nouméa, qui est au sud. Et donc les enfants, ils ont leur manière de... Ils ont un mode de vie, ils ont un mode aussi d'apprentissage aussi. Et donc on est obligé d'adapter. Et donc pour cela, il faut oser faire des expérimentations qui ont un lien direct avec le milieu proche environnemental de l'enfant. Donc.
Oui, alors pas de bruit, hein. Gloria, c'est pas de débrouillage, hein.
Alors vous, cette année, vous avez en charge le cycle 2, c'est-à-dire les petits. Oui. Jouer le jeu de l'autre, c'est aussi proche de cette idée que finalement, il n'y a pas un autre, mais il y a des autres. Quand on est kanak, on est un homme dans la tribu avec une place particulière, on est un homme dans la société, on est effectivement un être dans l'école, c'est des autres, une identité plurielle.
Oui, oui, oui. Se préparer déjà à affronter ce qu'il attend dans la société. Et donc on peut commencer par exemple, ici, voilà, moi je joue beaucoup sur les masques, tu es dans la peau de l'autre, tu sais de faire comme l'autre. Voilà, donc c'est tout ce jeu-là. Voilà. C'est un masque teke du Congo. Voilà, ils s'imaginent qu'ils sont congolais. C'est l'imaginaire qui se développe, quoi, en fait. Alors ça, c'est une poupée des États-Unis.
Alors c'est exprès que vous n'avez pas choisi des masques kanak, par exemple ?
Parce que là, on est en train de travailler l'universel pour revenir au singulier, en fait. C'est pour éviter le blocage, déjà, parce qu'après, on va s'enfermer sur nos propres... Et puis on va croire que c'est le meilleur masque du monde, alors qu'il y a d'autres peuples qui ont aussi des masques. Donc c'est ça.
Voilà, c'est pour éviter l'entre-soi.
L'enfermement culturel aussi.
Donc c'est déjà une première approche avec une pédagogie un petit peu différente. Et puis après, au cycle 3...
On rentre vraiment dans tout ce qui est fondamental. En créant ce projet-là, le projet c'est Duba Chasseur de Son, à partir d'un conte qu'on a créé avec des enfants. Parce qu'ils découvrent le conte là quand ils arrivent. Vous voyez le conte, il est là.
Il était une fois un chasseur qui s'appelait Duba. Un jour, parti de sa case pour chasser du gibier dans la grande forêt de Yengen.
Vous avez vu, tout le monde est s'est arrêté et écoute.
Pendant qu'il buvait de l'eau du creek, il entendit des échos lointains comme si quelqu'un l'appelait.
Et surtout, c'est chanté pas par des enfants de cœur, non, c'est des enfants d'ici. Et souvent, ces enfants-là, ce sont les grandes sœurs, ce sont les cousines, ce sont les nièces.
Chez les Kanaks de Nouvelle-Calédonie.
Voilà, alors on se dirige vers cette classe du cycle 3 et qui a la particularité finalement d'avoir toute la pédagogie basée sur ce livre de contes.
Oui, c'est bien ça. Là, vraiment, ils font de l'étude de texte, de compréhension. Et donc, là, c'est un peu ça le but un peu du projet, c'est de ramener, dresser des passerelles entre les savoirs endogènes et les connaissances des jeunes. Donc là, on est en plein dedans. Là.
Alors, qu'est-ce qu'il raconte?
Alors là, c'est l'histoire des gens qui indiquent des lieux dits pour le lieu de rassemblement. Et quand ils arrivent dans le lieu dit, là, où va se dérouler la cérémonie, avant de passer aux échanges de produits, mais ils se racontent encore des généalogies entre eux pour renouer les liens antérieurs, etc. Voilà. Il y a toute une histoire de généalogie aussi derrière. Parce qu'en fait, les gens de la montagne et les gens de bord de mer, ils ont des liens de parenté. Niveau culturel. La dernière strophe, c'est on a dit que heureusement qu'il y a l'école. Heureusement qu'il y a l'école pour faire en sorte que c'est un espace où on va réécrire notre histoire pour la chanter.
C'est magnifique, hein, ouais. Parce que c'est à la fois une réappropriation de leur culture, de leur histoire, et en même temps un apprentissage des fondamentaux.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça va les enfants? Vous avez travaillé avec maîtresse, hein, sur le conte Duba, le chasseur de son. Hein. Comment ça s'appelle la langue ici là? C'est Djawé, hein, le Djawé. Le Djawé, c'est parlé par à peu près, on va dire, 200 personnes. Donc là, nous, on va travailler, là, on va essayer de relire un peu, hein, parce que on parle, c'est vrai. Maintenant, il faut aussi savoir écrire ce qu'on dit. Alors, il y a des volontaires pour lire. Ethan, commence par le titre.
Dikava kayalabui yalen duba. Poivo nakosit nakava yalen duba.
On va essayer de traduire en français pour voir si on a respecté la traduction aussi en français.
Poivo, ça veut dire... Il était une fois.
Oui.
Un chasseur qui s'appelait Duba.
Voilà, c'est ça. Hein. Deuxième phrase.
Na malasit renemi menhen nale di man modek di ele douye man di ketoab dek men.
Un jour, il a pensé de partir pour les chasser.
Voilà. Hein. On peut dire autrement, plus pour enrichir un peu le français. Il décida de... Voilà, c'est ça. Hein, ok. Au niveau de la phonétique, on voit tout de suite, on fait des études comparatives, on voit tout de suite qu'il y a des sons qui existent en langue qu'on ne retrouve pas forcément en français. Mais quelquefois, il y a des sons voisins, par exemple pour le son O, le notu par exemple, c'est quelque chose qui sont familiers et ça motive l'enfant à apprendre le son O par exemple, parce que c'est lié à quelque chose qu'il voit.
Le notu est un des animaux endémiques de la région.
Donc des choses très simples comme ça. Après, tepe din dan, ça veut dire, voilà.
La prise.
Non, dan, c'est
la
lance.
Pour faire quoi?
Pour aller à la chasse à Yéguen.
Pour aller à la chasse à Yéguen, mais où? Dans la
forêt.
Dans la forêt de Yéguen. Le point le plus culminant de la Nouvelle-Calédonie, c'est Yéguen, c'est au Mont-Pagny. Ça, on peut travailler en géographie de ça. On va voir quand on va évoluer dans le texte, dans le conte. Il y aura le kagrou qui est un animal endémique, un oiseau endémique du pays. Il y a le notou aussi. Ils font partie aussi des éléments de la nature qui ont contribué à donner le son du kaneka. Le kaneka, c'est le style de musique du pays kanak. La dernière ligne de la passe.
Feli, Togavi, Heme, Na, Pot, Soumane, Oui, Donalie.
Alors, ça veut dire quoi?
Il a entendu des bruits qui viennent de loin. On dirait qu'il l'appelle.
Et on est un peu dans le monde de l'invisible, donc c'est voilà. Et les arbres ont des bouches comme les oiseaux, comme voilà.
Et là, ce sont les notous qui sont à l'intérieur et qui parlent.
Voilà. Ça c'est quoi ça? Bancoulier, le bancoulier. Hein, et ces herbes-là, ils parlent aussi? Pour arracher, par exemple, un arbre qui a été planté par un vieux.
Demande la permission du chef.
Pourquoi? Si jamais on ne demande pas la permission, il y aura des
morts.
Des morts ou des malheurs qui surgissent. Hein. Une fois que les enfants se sentent bien dans leur milieu, automatiquement, ils subliment dans les apprentissages. Le tout, c'est une reconquête un peu de leur cime de soi. Quoi, en fait. Mais le tout, c'est aussi de ne pas enfermer l'enfant dans du kanako-kanak. Moi, ce que je fais ici, c'est aussi ouvrir, préparer l'enfant à s'ouvrir vers l'universel. Plus il y a une déperdition culturelle aussi, identitaire aussi. Il faut remédier à tout cela. Comme disait si bien l'abbé Césaire, pour aller tutoyer la culture de l'autre, il faut d'abord bien posséder sa propre culture. Donc on est toujours dans ce rapport-là, du singulier à l'universel.
Moi, j'aime beaucoup la phrase de ce grand homme politique du Baou, qui répondait à Jean Chéneau, un historien français. Il disait comme ça, l'Occident est une machine folle qui va de l'avant. Est-ce qu'on doit vous suivre? Est-ce que vous êtes le modèle? Franchement, il faudrait vraiment une révolution mentale pour changer les choses, parce que ça ne pourra pas durer éternellement comme ça. Je ne pense pas qu'on puisse construire du vivre ensemble si ça passe pas déjà par le système éducatif. Vous grattez le vernis, il n'y a pas un bien vivre ensemble, il y a un mal-être, il n'y a pas véritablement une construction réelle, égalitaire du vivre ensemble, les uns avec les autres.
Douba, le chasseur des soins, c'est fait par des enfants.
C'est écrit en langue, c'est notre pure culture.
On est quand même dans une école un peu particulière, où ils ont tous le sourire, ils se battent tous pour répondre.
Il suffit d'un prétexte pour réveiller en eux cette curiosité intellectuelle qu'ils avaient déjà en eux. Il fallait trouver le bon prétexte. Quoi. Vous rangez.
Au revoir. Être libre et fier de l'être, ce pourrait être presque une épitaphe qu'on pourrait mettre devant cette école de Yembe.
Je veux que nos enfants réussissent à l'école de la vie. Quoi. Et donc dans les projets qu'on mène ici, justement, on travaille sur les intelligences multiples. L'intelligence, c'est cette capacité de transcender, de grandir, de croître et de beaucoup partager, parce que finalement, on est obligé de partager avec l'autre, parce que c'est une manière aussi de grandir.
Grandir avec l'autre, se créer une identité plurielle, singulière et universelle, c'est le défi auquel sont confrontés ces peuples, aujourd'hui entre deux mondes. C'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine dans Voyage en Terre d'Outre-mer. C'était un documentaire d'Anne Pastor, réalisé par Clément Baudet, au montage Édouard de Penoat, assisté de Maréva Jacquard, au mixage Jean-Philippe Jeanne et à la programmation musicale Jobaka.
Someone familiar, surely not me. For he can't be. Look how awfully cold and tired and lonely he's become. price tag hanging off of having all that fun. Seeing more of my old man in pain. Oh no, looks like I'm seeing more of my old man in pain. Walk on the outside, holding a stronger, sometimes love is pushed away. Uh-oh, looks like I'm seeing more of my old man in me. Oh no, looks like I'm seeing more of my old man.
Vous pouvez réécouter cette émission sur franceinter.fr. Merci à Paul Wameau, Tiwan Kuchli et au service de la documentation de Radio France. Ce programme a reçu le soutien en Guyane d'Air Caraïbes, Air Guyane et Ivaneos, en Nouvelle-Calédonie, d'Air Calin et de l'Office du Tourisme. Le voyage continue sur France Inter.